remportons ces élections, tout va changer.
RPH déroule le tapis rouge à la 63e rencontre cinéma de Pézenas.
Το ερώτημα δεν είναι γιατί ασχολείται κάποιος με το κίνημα, αλλά γιατί δεν ασχολείται.
Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Ils font tout pour vous écraser, vous et l'espoir que vous représentez.
To break out of these chains is already a big win.
Louis Planel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de passer quelques instants en compagnie des auditrices et des auditeurs de Radio Pays d'Hérault. Vous avez été sollicité par les animateurs de la 63e rencontre cinéma de Pézenas pour présenter certains films et pour participer aux échanges et débats à l'issue des projections. Et ce n'est pas un hasard si les films retenus sont ceux de Costa Mavros. Compte tenu de vos cheminements respectifs, de vos convictions partagées, vos parcours ne pouvaient pas rester parallèles et il est heureux qu'un jour vos trajectoires se soient croisées. Croisées pour d'abord produire un essai, tous les films sont politiques, et ensuite pour concevoir et réaliser cette série en 10 épisodes, Le siècle de Costa Gavras. Ma première question, si vous le voulez bien, c'est dans quelles circonstances avez-vous rencontré Costa Gavras?
Je l'ai rencontré avant de le rencontrer physiquement. Pour ma génération, nous avons 20 ans d'écart exactement. Pour ma génération, Z, ce film qui est sorti en 1969 autour de l'assassinat d'une figure de la gauche démocratique humaniste grecque, Lambrakis, joué par Yves Montand, a été un choc. C'est le film de notre génération, au fond. C'est un film qui est sorti alors qu'il y avait des dictatures en Europe, en Espagne, au Portugal, en Grèce notamment. Et ce film, qui pourtant nous décrivait des mauvaises nouvelles, nous étions solidaires de tous ces peuples, et pas seulement en Europe et ailleurs, qui étaient privés de liberté. En même temps, on sortait de ce film regonflé. C'était la force d'imaginaire du cinéma de Costa Gavras. C'était sa marque. Tous les films sont politiques, c'est une formule de lui. Faire un cinéma grand public, qui parle à tout le monde, qui parle de ce que nous avons en commun, mais sans faire de la propagande. Ce n'est pas un cinéma militant, fermé pour des gens qui sont déjà au courant, pour des gens qui sont dans l'entre-soi. C'est parler à tout le monde et en racontant une histoire sensible avec une qualité de narration par la maîtrise de tous les métiers du cinéma. Alors pourquoi je vous parle de ce film? C'est qu'à l'époque de son tournage, j'étais moi-même en Algérie. Et le film est tourné en grande part en Algérie, d'ailleurs produit par la jeune République algérienne. Et je suis un jeune adolescent, j'ai 16 ans, qui assiste à son tournage au centre d'Alger. Et après, je vais voir le film. Donc voilà, s'il y a un lien comme ça, comme une sorte de pas divinité tutélaire, mais j'aime bien au sens l'idée qu'on a des compagnons comme ça, qu'on n'a pas forcément rencontrés. Et puis la vie a fait qu'avec mon métier, et notamment à partir de la création de Mediapart après que j'ai quitté Le Monde, nous nous sommes plus souvent vus. Et là est né d'abord à l'occasion des coffrets pour les 18 premiers longs métrages de Costa Gavras, il en a fait 20 à la date d'aujourd'hui, les coffrets d'Arte, sa femme et coproductrice et complice, Michèle Rey Gavras, m'a demandé de faire les bonus, c'est-à-dire de faire des entretiens avec Costa, ce qui sont dans ses DVD, et puis du coup de faire des petits livrets qui accompagnaient, et du coup c'est devenu le livre dont vous avez parlé, tous les films sont politiques. Et puis Michèle Gavras, qui est toujours entreprenante, a dit mais ça ferait une série formidable. Et j'ai conçu cette série avec Yannick Kergoat, qui la réalise, qui est un monteur formidable au départ, complice de Costa Gavras. Costa comme vous le voyez, y compris, on l'a vu pendant toutes ces rencontres à Pézenas, est à la fois généreux, modeste, très fier et très simple à la fois. Et Costa ne voulait pas un film sur lui, une série sur lui. Et donc le siècle de Costa Gavras, c'est revisiter toute sa filmographie en montrant, à partir des films même, du contexte de ces films, de documents d'archives et évidemment d'entretiens faits aujourd'hui avec Costa, que ce cinéma, c'est au fond notre récit. C'est un raconteur, comme je l'ai dit, qui nous raconte une histoire qui n'est pas que du passé, qui est un passé qui est à présent, qui est dans notre présent. Costa n'a rien oublié de tous les grands thèmes, que ce soit la crise économique, le chômage, les dictatures, les démocraties qui meurent, la Shoah, le génocide, Palestine, Israël, la collaboration. Enfin, je pourrais multiplier tous les exemples. Et d'où cette série qui s'appelle « Le siècle de Costa Gavras ». Il est né en 33, quelques semaines après la victoire d'Hitler, et qui, à partir de son œuvre-vie, et de cette force du cinéma et d'un cinéma à la fois talentueux, tout à fait rigoureux et en même temps populaire, nous fait partager un imaginaire qui nous élève, qui nous relève. J'ai dit, vous savez, la Grèce, c'est l'invention avec Hérodote de l'histoire. Mais le mot « histoire » en grec veut dire « enquête ». Comme d'ailleurs tous les films de Costa Gavras sont faits de dossiers. Comme moi, en tant que journaliste, je défends l'enquête, la révélation, voir ce qui nous fait mal, voir ce qui nous oblige à réfléchir, voire à penser contre nous-mêmes. Ça a été le cas du choc dans la foulée de Z, de l'aveu par rapport aux gauches, par rapport à l'aveuglement sur le stalinisme et sur le socialisme réel. Et donc j'ai voulu, à partir de cette amitié, de cette complicité, en passeur, moi je me mets au service de l'œuvre de Costa, je ne prétends pas faire une glose de critique cinématographique qui se mettrait en surplomb, je veux simplement partager, comme on partage un bon roman, comme on partage une grande série littéraire, partager une œuvre qui pour moi n'est pas au passé et est au présent.
Je disais qu'il y avait quand même beaucoup de ressemblances entre votre parcours et celui de Costa. Et puis il y a aussi beaucoup de ressemblances dans des convictions. Bon, celle de toujours porter un regard critique sur ce qu'on vit, sur l'histoire. Mais aussi celle d'avoir l'envie de résister.
La série a deux saisons. On est en train de terminer la première, les 5 épisodes, et il y a une deuxième. La première s'appelle « L'espoir ». Parce que c'était le temps où les vents étaient favorables. Et donc, c'est tous les premiers films de Costa qui restent, parce que, qui accompagnaient ce bouillonnement des années 60, des années 70. La deuxième saison s'appelle « La résistance ». Et c'est là où on a rendez-vous avec soi-même. Et ce que Costa a éprouvé dans son métier, ce que moi j'éprouve dans le mien, évidemment, y compris contre une partie de mon métier, c'est quand les vents sont contraires qu'on est mis à l'épreuve. J'ai bientôt 74 ans, Costa vient d'en avoir 93, mais à mon âge, j'ai vu et j'ai accompagné des gens qui, comme je me le dis, pour reprendre une histoire de cinéma, c'est Star Wars, sont passés du côté obscur de la force. Quand les vents sont contraires, on voit ceux dont les engagements étaient une histoire presque vitale, ancrée, voilà, qui dépassaient les idéologies, et puis ceux pour qui c'était des foucades juvéniles, des opportunismes du moment. Et puis du coup, quand les vents sont contraires, comme les pins quand il y a de la tempête, ils tombent, ils ne sont pas racinés en profondeur. Voilà. Et donc, en effet, résister. Et puis, résister, nous parlons, cette année 2026, dans des temps sombres, il faut se le dire. On a fait la projection d'Anaka, on a parlé de la Palestine, on pourrait parler évidemment de l'impérialisme américain, de la démocratie, de plein de questions. Donc c'est un moment difficile, mais c'est d'autant plus dans ces moments-là qu'on a besoin de cette poétique de la politique, de cet imaginaire qui fait vivre de l'espoir. Et cet espoir, du coup, nous permet de résister. Quand on, encore une fois, quand on sort de ce cinéma-là, on se dit « je ne vais pas céder, je ne vais pas reculer, je vais faire face ». Et ça nous aide à vivre. Pour moi, voilà, c'est cette complicité-là, c'est des personnes qui nous aident à vivre, pas des maîtres penseurs, pas des gens qui d'en haut vous disent, voilà, il n'y a qu'un seul chemin. Non, pour reprendre, nous sommes autour de la Méditerranée, de notre Mare Nostrum, comme disait Antonio Machado, Caminante, Noi Camino, toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Mais ce chemin doit être un chemin d'espoir, un chemin où on résiste ensemble, où on partage. Je crois beaucoup, d'ailleurs, Yannick Kergoat, avec qui je réalise cette série, vous savez, il a fait le film de Mediapart, qui a été nominé là, pour les Césars. Personne n'y comprend rien sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Et j'ai tenu, ça a été, avant de passer la main à la direction de Mediapart, ça a été ma dernière décision. J'ai dit, écoutez, cette histoire Sarkozy-Kadhafi, cet immense scandale, on l'a traité de toutes les manières. On a fait des articles, des livres, des bandes dessinées, des podcasts et tout, des vidéos. Là, on va faire un film, et un film en salle. D'ailleurs, on a fait un crowdfunding, un plus gros crowdfunding, 550 000 euros, un financement participatif pour financer ce film. Pourquoi en salle? Parce que quand vous êtes en salle, vous vous retrouvez avec des gens, vous n'avez pas forcément les mêmes idées, vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas le même itinéraire professionnel, le même milieu, tout ça. Et tout d'un coup, vous êtes face à cet écran, mais vous êtes dans une histoire physique. Vous n'êtes pas seul dans votre écran, vous n'êtes pas isolé, vous êtes ensemble. Et là, vous allez communier, au sens laïque du terme, autour de cette histoire. Et il va se passer quelque chose. Tout d'un coup, si ça a marché, si le film est réussi, il va y avoir une discussion entre vous. Et ça, je crois à ça. Je crois, et ce festival qui est ici illustre ça, parce que c'est les ciné-clubs. Hein, c'est-à-dire, on se retrouve ensemble. Et le mot club, au sens club révolutionnaire, club des Jacobins, club des Girondins, hein, on est ensemble et on partage. Et ça, je crois à la force du cinéma, je crois à la défense des salles de ce point de vue, et vraiment de cet art. C'est notre narration. Aujourd'hui, on a une histoire commune si on arrive à la projeter sur des écrans.
Quand je compare ce que fait Costa Gavras, c'est ce que vous faites vous en tant que journaliste, il me semble que ce que vous pouvez apporter à ce que vous réalisez en commun est complémentaire. Il y a la rigueur du journaliste et la déontologie, parce que chez vous c'est important, la déontologie du journaliste, pour vous, les faits, des analyses qu'on peut partager, plus ou moins. Et chez Costa Gavras, il y a, à partir des faits, cet art qu'il a de raconter des histoires qui impliquent le spectateur, qui ne peuvent pas le laisser indifférent, qui peut-être le mettent devant une réalité qu'il n'avait pas perçue, mais qui, quand même, l'amène à y réfléchir dessus.
Oui.
Et quand vous parlez du film que vous avez réalisé là, sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, c'est un film plutôt documentaire ou c'est un film qui est comme le fait Costa Gavras, à une histoire?
C'est un documentaire, hein, c'est pas une fiction, mais en fait, cette histoire, on pourrait dire que la réalité dépasse la fiction, cette histoire. Et puis on a un très bon acteur qui s'appelle Sarkozy, on peut pas l'inventer. Donc, comme Costa le dit, hein, il dit le moment, il y a l'histoire, il y a la technique, il y a la direction d'acteur, l'animation, il n'aime pas dire direction. Et puis le moment où s'écrit un film, c'est le montage. C'est le montage. C'est là que vous trouvez votre rythme, c'est là que vous trouvez votre ton, c'est là que tout va se passer, vraiment. Et d'ailleurs, Costa, il y a des monteurs professionnels, des monteuses professionnelles, mais il est toujours là au montage. Et Yannick Kergoat, je l'ai connu comme ça, parle l'amical Costa Gavras, et il est un formidable monteur. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire-là? Il y a ce que j'appelle, en écriture, moi je suis quelqu'un de l'écrit plutôt, il y a ce que j'appelle la case lecteur. Vous pouvez faire la meilleure enquête, vous pouvez avoir la meilleure idée journalistique, mais si vous oubliez le lecteur, ça passe pas. Donc la question de comment vous transmettez. Le journalisme qui se fait plaisir, qui n'est lu que par ses copains qui partagent ses idées, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est d'atteindre d'autres gens. Et c'est merveilleux. C'est se dire, mais tiens, j'ai écrit cet article, finalement, je l'ai pensé tout seul, je l'ai sorti de mon travail, de mes tripes, de ma sensibilité, et ça atteint d'autres gens improbables. la merveille pour moi de l'histoire collective de Mediapart, c'est ça. Ça fait 18 ans que beaucoup de monde se fédère autour de ce journal. On a partagé une histoire professionnelle, une culture professionnelle. Elle est devenue collective avec des gens qui ont 20, 30 ans, 40 ans de moins que moi. Et je sens bien qu'il y a une affection, une identification, etc. Et donc, ça, je partage ça en effet avec Costa. En fait, c'est l'envers de ce qu'on a appelé, encore une fois, à une autre époque, le cinéma militant. Dans le feuilleton, la série que nous avons fait, le premier épisode sur Z, il y a une séance de télé dans les archives de clubs de cinéma où on voit un critique très célèbre, Jean-Louis Borry, où on voit le futur responsable du Festival de Cannes, etc. Et il y a Georges Semproun, le co-scénariste, qui défend la force de ce film et sa narration. Le film est un succès commercial à l'époque. On est en 69, on est dans une époque de gauchisme triomphant.
Alors que quand même, ce n'était pas gagné d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir le
réaliser. Ah non, ben c'est comme ça que la République algérienne est venue au secours, il n'avait trouvé personne. Voilà. Et d'ailleurs, quand ils ont l'Oscar aux États-Unis, c'est un Algérien qui, avec Jacques Perrin, va un fonctionnaire de la République algérienne qui va récupérer l'Oscar.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'époque, les militaires avaient une place importante dans la politique algérienne.
Oui, d'ailleurs, il y a une anecdote qui raconte, c'est que certains du pouvoir militaire, il y avait eu le coup d'État de Boumediene, disaient, mais on ne peut pas aider ce film, parce que c'est un film sur des militaires qui font un coup d'État. et Boumediene s'en sort en disant mais nous on est des militaires pas pareils, on est des militaires progressistes et tout. Bon, la société algérienne pourra en discuter, mais c'est comme ça que finalement il y avait encore le souffle hein, des idéaux de l'indépendance était encore là malgré le parti unique et malgré la répression que vivait déjà le peuple algérien. Mais pour en revenir à cette séquence qui est dans le premier épisode de notre série, on voit à côté, il parle très peu, deux autres. Et ça, c'est des tenants à l'époque du cinéma radical gauchiste, et qui pensent que Costa, il fait du cinéma commercial. Eux, ils font du cinéma militant. Mais c'est intéressant parce qu'on ne l'a pas précisé. L'un des deux, c'est Marin Karmitz.
Oui.
Qui, à l'époque, faisait le cinéma maoïste coup pour coup. On est prêt, totalement compréhensible que par les convaincus. Karmitz, il est devenu quoi aujourd'hui? Comme je dis, il est passé du côté obscur de la force. Il a produit d'excellents films, il a toutes sortes de chaînes de cinéma, mais il est devenu conservateur. Il est... Là où Costa, qu'il voyait comme un type, il se compromet dans le commerce, ben non, Costa, il est resté. C'est-à-dire, il y a, pour moi, des fidélités à l'essentiel qui ne passent pas par le dogme, qui ne passent pas par le sectarisme, qui ne passent pas par... la certitude d'avoir raison, qui passe au contraire par l'écoute, par le doute, par le tâtonnement et tout. Et Costa, pourquoi c'est une belle figure, au-delà de la figure humaine, c'est une figure qui incarne ça.
Et je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais son dernier film est peut-être plus personnel, parce que c'est l'approche d'une fin de vie ou des choses comme ça. Je pense qu'il est de nature à toucher les gens, parce qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas ne pas se confronter avec cette réalité-là.
Ouais. Ouais, c'est un film qui est lié à une amitié, puisque en fait, c'est né d'un dialogue qu'a eu après des accidents de santé qu'il avait eu, l'un de nos amis communs, de notre histoire commune, qui est Régis Debray, avec un docteur qui s'occupe des soins palliatifs, de l'accompagnement, le docteur Grange. Ils avaient fait un petit livre de dialogue, et Costa, qui cherche toujours un dossier, une histoire, est tombé dessus, et du coup, il a écrit lui-même le scénario, et ça fait ce film, Le Dernier Souffle, qui est en effet un film sur la fin de vie, sur le droit à mourir dans la dignité, qui accompagne ce débat qui est toujours bloqué en France, hein, qui est difficile. Costa, par moment, il m'a dit ça pendant ici à Pézenas, il se fait parfois le reproche de ne pas avoir été assez radical dans la fin du film pour défendre, lui, le fait qu'à un moment, on ait le droit Il laisse le, comme souvent, il laisse le spectateur lui-même être habité par la question, et là, il se dit qu'il aurait dû, vu comment ça coince le débat en France, défendre plus radicalement cette idée d'avoir le droit de décider en toute lucidité d'en finir. J'ai assisté à quelques-uns des débats autour de ce film qui comme le dit lui-même Costa, qui est un film, alors formidable direction d'acteurs, Podalides, Cadmerad, comme souvent, il fait des contre-emplois et il réussit à prendre des acteurs comiques et il leur fait jouer. C'est pour moi un des meilleurs rôles de Cadmerad. Et donc, comme le dit Costa lui-même, c'est pas les grands dispositifs d'avant. Le précédent, Adieu in the Room, c'était encore les grands dispositifs. Là, il reste un, parce que c'est physique, hein, un tournage, il faut se lever très tôt, il faut garder le budget, etc. Donc lui-même tient compte hein, de sa capacité. Il a toute sa tête, évidemment, mais c'est l'effort physique des grands dispositifs de tournage. Mais j'ai assisté à des débats autour de ce film, et là, c'est un film où tout de suite, on ne discute pas à cinéma, hein, on discute les gens, et tout le monde vient, et puis y compris avec des engueulades dans la salle, parce que chacun parle de ses grands-parents ou de ses parents qui l'a accompagné, de la personne qui l'a perdu. Tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et voilà, et que ça, c'est un humaniste, quoi. Il nous parle de l'essentiel. Et donc là, je ne sais pas si ce sera son dernier film. Bon, il a toujours dans la tête d'en faire un 21e.
Je l'ai interviewé il y a pas longtemps, il a encore des projets.
Oui, il a toujours des projets, il ne sait pas lequel, il cherche, etc. Mais ce dernier souffle, voilà, il a, comme toujours, il prend les questions qui sont au cœur de ce que nous ressentons.
Et je pense aussi que c'est peut-être l'occasion de ne pas continuer à se cacher. Cette réalité-là, qui fait que pendant tellement longtemps on se l'est caché, que peut-être les débats d'aujourd'hui sont aussi virulents et quelquefois même bloqués malgré tout. Donc ça remet peut-être le problème-là en évidence, et ça permettra peut-être de faire évoluer aussi des mentalités,
oui,
de résister.
Bien sûr, résister, parce que qu'est-ce qu'il met sous les yeux ? C'est-à-dire qu'on vit plus vieux aujourd'hui dans nos sociétés. Hein, Et on vit plus vieux, mais on peut... Tout le monde ne meurt pas tout d'un coup dans son lit, etc. Donc, on peut se retrouver à vivre plus vieux, mais dans une dégradation profonde, hein, et avec des mots en plus contemporains dont on ne connaît pas toutes les causes, l'importance d'Alzheimer, l'importance de maladies de Parkinson et d'autres, et on se retrouve dans des formes d'incapacité, alors, et avec un poids pour les vivants, une souffrance pour la personne concernée. Et comment on sort de ça, sans compter les débats sur le poids économique, sur combien ça coûte, sur l'inégalité dans ces cas-là, entre ceux qui ont les moyens de payer l'EHPAD et ceux qui n'ont pas les moyens, etc. Et donc, pour moi, c'est avoir affronté cette question, c'est formidable. Et c'est très courageux.
Comme ça a été le cas précédemment dans beaucoup d'autres films. Au programme de la 63e rencontre cinéma d'Épaisse-de-Metz, donc, sont prévues les projections de l'épisode 1 et l'épisode 2 du siècle de Costa Gavras. Bon, le premier, c'est tous les films sont politiques. Ça, c'est une déclaration. Enfin,
c'est à partir de 7, oui. Oui, c'est à chaque fois, il y a un ou deux films qui sont au cœur de l'épisode et qui permettent d'amorcer le propos. Le premier annonce la tonalité, et c'est Z, parce que c'est Z qui fait connaître mondialement Costa Gavras et qui marque l'avènement, en effet, d'une nouvelle forme de cinéma politique qui parlera à tout le monde, qui fera le tour du monde, hein, avec en plus cette note d'espoir, puisque Z en grec, c'est une lettre qui accompagnait, oui, la vie, il est vivant, et voilà, on ne renonce pas. Et donc, il y a le premier, c'est celui-là. Le deuxième, on revient aux origines de Costa Gavras. Et là, beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire.
C'est
un coup de pied au malheur. C'est le jeune demandeur d'hospitalité réalité où tout est bouché pour lui en Grèce. Son père, étant considéré comme communiste et avec le durcissement avant même la dictature en Grèce, est interdit. Il ne peut pas faire d'études. Il est fils de communiste. Il est interdit d'études. Donc il n'a pas d'espoir en Grèce. Et donc il vient, voilà, ne parlant pas un mot de français, il débarque après un très long voyage à la gare de Lyon et il va faire son chemin. Et là, on est au cœur de voilà comment l'hospitalité, comment notre pays accueille. Et vous voyez, on est très fiers d'avoir Costa Gavras. Bon, mais il n'est pas né français, hein, et il a fait son chemin. Et là, c'est les deux premiers films qui sont peu connus, Compartiment tueur et Un homme de trop, qui montrent la maîtrise. C'est-à-dire que Costa maîtrise totalement. Une histoire, la technique, les optiques, les caméras. Il a été premier assistant de toutes sortes de metteurs en scène après l'IDEC. Et il a fait cette formation. Et puis après, l'animation des acteurs et le coup de pouce que lui donnent Simone Signoret et Yves Montand qui l'accompagnent. Et donc, on voit tout ça. Après, le troisième épisode, c'est le choc. Après la Z, il fait l'aveu. Et là, c'est la vérité révolutionnaire. C'est-à-dire, il faut regarder en face. Et donc, c'est Montand qui joue Arthur London et un procès de Moscou en Tchécoslovaquie, hein, procès de Prague. London va échapper à la peine de mort parce que sa femme est la belle-sœur d'un dirigeant du Parti communiste français. Mais c'est l'aveuglement, hein, comment les espérances du socialisme peuvent donner des pouvoirs totalitaires. C'est très fort. Ensuite, quatrième épisode, c'est les démocraties meurent aussi. Ça percute totalement notre présent avec Trump et l'Amérique latine. C'est autour des deux films latino-américains de Costa, État de siège et Missing, qui, voilà, comme les régimes militaires. Et on voit bien, vient d'être élu en Chili, au Chili, un défenseur de Pinochet. On voit bien ce que fait Trump et ce que fait l'impérialisme américain en Amérique latine. Le cinquième épisode, qui était peut-être le plus délicat à bien réussir, c'est vraiment l'épisode, ça s'appelle « Un passé qui ne passe pas ». Nous avons marié deux films, un film sur ce qui est pour nous une évidence aujourd'hui, enfin, la Shoah, le génocide, la mémoire du crime européen contre les Juifs d'Europe. Donc c'est Music Box, à partir de cette histoire réelle de Demon Juk, c'est-à-dire d'un gardien de camp nazi qui s'est retrouvé en Amérique du Nord et qui en fait a caché son passé. Et là, le scénario, c'est l'avocate qui va le défendre et sa fille, et puis elle va découvrir la réalité de l'histoire. Mais nous avons marié ce film avec comment de ce passé qui ne passe pas, qui est notre faute européenne, nous l'avons jeté, comme j'aime dire, comme un manteau de poussière sous le dos d'un autre peuple. La légitimité d'un foyer national juif et que les juifs du monde entier puissent se retrouver à l'abri, c'est l'espérance qu'a porté le mouvement national juif qu'on appelle le sionisme, et l'ensemble des victorieux du nazisme ont accepté et validé la naissance de l'État d'Israël. Mais on ne répare pas un crime en commettant une injustice, et l'injustice, c'est la négation des droits du peuple palestinien. La Nakba, 80% qui doivent quitter leur terre en 1948 et qui se redouble en 1967 après l'occupation des territoires de Cisjordanie et de Gaza par Israël. Et ça, c'est un film maudit, oublié, à cause du conformisme, hein, les mêmes qui étaient indifférents au sort des Juifs en temps réel, aujourd'hui, les réactionnaires, des conservateurs, aujourd'hui ils disent « mais toute critique de l'État d'Israël, c'est l'antisémitisme », ce qui est ridicule. Il y a en Israël des démocrates minoritaires, hélas, qui ont demandé à Israël de sortir des territoires occupés et qui documentent la violation des droits humains. Et donc cet autre film s'appelle « Anaka ». Et c'est aussi un personnage féminin, aussi une avocate, C'est une avocate qui va défendre un Palestinien qui veut récupérer sa maison, jouée par un acteur palestinien qui est mort il y a peu, qui est un arabe israélien, c'est-à-dire c'est un Palestinien de citoyenneté israélienne, Mohamed Bakri. Il est décédé à la fin de l'année 2025. Et c'est un film, là, Costa est visionnaire, c'est-à-dire que c'est le grand film, en plus qui était une production américaine, qui affronte ce qui percute totalement notre présent, évidemment, aujourd'hui, depuis 2 ans, avec la riposte d'Israël au massacre du 7 octobre 2023, riposte qui se traduit par des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, une guerre génocidaire qui n'attaque pas le Hamas, mais attaque l'idée même de Palestine. Et donc là, cet épisode est l'épisode qu'on a essayé de tenir tous les bouts. Hein, c'est le message de Costa, tenir tous les bouts, ne pas regarder que d'un œil. Hein, c'est comme aujourd'hui, il y a des gens, ils ne veulent voir que Gaza, mais ils ne veulent pas voir l'Ukraine. Et puis d'autres, ils ne veulent voir que l'Ukraine, mais ils ne veulent pas voir Gaza. Ben, il faut tenir tous les bouts. Et c'est ce que cet épisode... Ça, c'est la première saison. Puis après, la deuxième saison, mais là, je ne vais pas la spoiler, va reprendre la suite de la filmographie. Comment dire, on pourrait dire que les premières saisons de Costa, il s'occupe des tumultes du monde. Et après, il va se confronter aux tourments des sociétés. Ici, on a projeté le couperet, c'est le chômage, les cadres qui se retrouvent sans emploi. On n'a pas projeté Eden à l'Ouest, mais c'est l'immigration. On a projeté Adults in the Room, c'est l'Europe et sa crise. Et voilà, et on a parlé ensemble tout à l'heure du dernier souffle. Voilà, c'est comment dans nos sociétés on meurt. Voilà.
Les 5 premiers épisodes sont faits.
Sont faits, et normalement, si c'est Michel Gavras qui produit, il devrait être diffusé avec les films de Costa Gavras, 1 ou 2 épisodes sur Arte, la chaîne, et l'ensemble sur le site, sur le site d'Arte.
J'allais vous demander où on allait.
Normalement, sur Arte, je touche du bois, tant que je me méfie toujours des aléas de l'audiovisuel. Ce n'est pas Mediapart. Si c'était Mediapart, je décide, mais ce n'est pas Mediapart.
Adouille Planet, je voudrais vous remercier
d'avoir
accepté de passer plus d'une heure en notre compagnie. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Je pense que les auditrices et les auditeurs de Radio Pays d'Hérault partageront le plaisir que j'ai eu. À bientôt.
Merci beaucoup et tenez bon. Hein. Comme vous savez, j'ai un lien avec cette Occitanie, ce Languedoc, par les hasards Caminante, Noah et Camino, qui m'ont amené à me poser un peu à Pézenas. Et c'est une histoire de fidélité aussi, à des amis, à des combats. Et donc, voilà, je suis très honoré d'avoir passé ce moment avec vous.